Bienvenue sur Numar. Numar, c'est le podcast de l'art au temps du digital. Nous interviewons des personnalités influentes du monde de l'art qui nous présentent leur vision du numérique dans l'art.
Bonjour Clémence.
Bonjour Pascal.
Aujourd'hui, nous allons interviewer Rohemit, le directeur du digital de RMN, Réunion des Musées Nationaux, Grand Palais.
Bonjour Rohi, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Pour le lancement de notre podcast, on est très contents et très fiers de vous avoir.
Pour commencer, nous aimerions savoir comment le Covid avait accéléré l'utilisation du digital chez vous.
Je pense vraiment le mot clé, c'est l'accélération, ce n'est pas l'invention, parce que transformation digitale a commencé depuis longtemps. D'ailleurs, moi-même, si j'ose dire, je représente ces transformations dans le sens où, à un moment donné, il y a la décision de créer une organisation dédiée dans laquelle le digital a sa place. Et donc là, ça a commencé bien en amont. C'est pour ça, d'ailleurs, on a pu mettre en place à la fin une stratégie et des plans d'action successifs par rapport à la digitale dans notre propre institution, mais aussi de manière plus générale dans le monde de la culture tel qu'on les connaît. Et des coups, d'ailleurs, on s'est trouvé assez près, si j'ose dire, de ces points de vue au moment de la crise sanitaire. Pas, bien évidemment, pas de tout près en tant que citoyen et en tant qu'enfin des professionnels. C'est là, du coup, ça nous a pris tout par surprise. Mais des points de vue digital et des points de vue des relations de digital avec nos publics, on y a déjà pas mal réfléchi et agi dans ces domaines. Cela dit, par les conditions extrêmes telles qu'on les connaît, notamment la fermeture physique des lieux, la fermeture, enfin les confinements de public, nous-mêmes inclus, nous a obligés et de modifier, d'accélérer certaines choses. Si vous voulez, je peux donner quelques exemples. Notre perception, notre vision de visiteurs, de relations avec notre public, était donc depuis longtemps des relations, ce qu'on appelle à 360 degrés. On n'a pas pensé que notre relation avec notre public se concrétise qu'au moment de la visite physique dans nos espaces. L'appréhension que nos relations avec le public se passent en amont de visite, bien évidemment pendant, mais aussi après, et aussi en parallèle avec des publics qui ne sont pas nos publics physiques, mais qui sont nos publics en ligne. Donc, c'est cette vision-là qui a existé bel et bien avant la crise sanitaire s'est trouvée, d'ailleurs, on s'est trouvé prêt dans la mesure où on a enlevé simplement une partie, la partie où on s'interagit physiquement. Mais toutes les autres parties étaient déjà là, ce qui nous a permis, je dirais, peut-être d'aller un peu plus vite dans l'élaboration, proposition concrète des contenus au public.
Vous parlez beaucoup du public et on voulait savoir si, selon vous, le digital rendait l'art plus accessible.
C'est bien évidemment est à la fois oui et non, elle est complexe. Pour dire, je pense que cette période que nous traversons a fait qu'il y a une offre beaucoup plus riche, beaucoup plus adaptée, beaucoup plus accessible qui existe aujourd'hui sur des canaux et pour des usages différents de ce qui a existé, ne risque qu'il y a quelques mois avant. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, on constate, je pense, qu'à la fois des points de vue de l'offre, mais aussi de son invention, imagination et proposition a évolué et qui a d'ailleurs en potentiel la possibilité d'attirer ou d'interagir avec des publics encore plus larges. Cela dit, et c'est pour ça qu'il faudra nuancer, on constate que donc il y en a un phénomène qui existait avant, c'est les hyperboles des offres, enfin l'abondance des contenus et des offres, des sollicitations. Les numériques ne cessent de agrandir des offres numériques de manière exponentielle. Et donc là, je dirais, c'est cette vastitude, richesse, cette offre pléthorique est une caractéristique forte de cette époque. Et aussi des autres types de contenus, ou d'autres types d'offres, d'autres types de sollicitations. Et donc, je dirais, le public potentiel qui est on est, je dirais, en mettant moi et nous aussi, on fait partie de ce monde. Mais d'ailleurs, je dirais, ces citoyens et personnes qui nous entourent, on n'a pas forcément ni le temps les moyens, les ressources, l'attention nécessaire parfois à ce type de rencontres avec des contenus de type artistique ou culturel. Et donc, c'est pour ça que je dis que la réponse est nuancée et que la manière de l'analyser ne devrait pas être de la part de l'offre, hein, mais plutôt du point de vue des usages, du contexte, d'un écosystème plus large, de la sociologie, de la psychologie, des noms différents types donc, de publics. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds, mais je ne pense pas à un moment donné, par exemple au mois d'avril 2020, on a constaté en effet une consultation très forte sur les sites internet, des propositions culturelles. Et dans ce sens, après, il faudra aller mettre ça dans les contextes très particuliers des confinements généraux, des fermetures des écoles, des fermetures de tous les lieux, etc. Donc, certes, les gens, le public, ont allé plus que d'habitude ou plus qu'avant sur ça. Est-ce que ça signifie un truc durable? Je ne sais pas. Je ne pense pas, d'ailleurs. Est-ce que ça signifie une implication, un engagement plus fort? Je pense qu'il faudra aller regarder ça plus en détail. Et donc, je dis certes, il y a un phénomène important. Pour le comprendre, il faudra le mettre dans un contexte plus général.
En parlant de confinement, quel type d'action avez-vous mis en place pendant cette période?
Alors, du coup, oui, tout de suite avec les confinements et donc la fermeture des lieux, on a pu mettre un programme dédié, on l'appelait à l'époque « Grand Palais chez vous », où on a pu mettre en place, éditorialiser des contenus préexistants. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans le pléthorique des offres existantes, les mots-clés et les éditorialisations. C'est la manière dont on propose donc des contenus qui fait sens, qui arrive à faire surgir des différents types de choses dans cette énormité d'offres. Et donc, on a pu mettre en place une programmation éditoriale qui correspond à différents types de publics, avec donc des contenus divers et variés, qui soient à la fois des contenus audio, vidéo, des contenus plus ludiques, plus pédagogiques, selon typologie donc des usages et des publics. On l'a mis en place et on l'a animé pendant de longs mois. Ce qui a ponctué de manière très importante cette période a été le lancement, qu'on a lancé en ligne notre exposition Pompéi, qui était censée s'ouvrir physiquement, mais qui a été du coup empêchée de s'ouvrir. Donc, autour d'une thématique, on a proposé, qui est donc Pompéi, l'exposition qui n'est pas pu s'ouvrir à l'époque, et on a proposé donc à la fois des contenus, des vidéos, des différentes des podcasts, des jeux, de la réalité virtuelle en casque, la possibilité de jouer avec de la réalité augmentée chez vous, avec une sculpture des Livies qui était trouvée dans les fouilles, et etc. Et d'animer ces contenus, c'est qu'il y a eu un gros succès. Hein. On a eu plus de 1,3 million de visiteurs sur ces contenus-là pendant ces premiers mois. Et d'ailleurs, ça a préparé, on estime que ça a préparé dans la réussite de l'exposition qui finalement a pu s'ouvrir au mois de juillet, hein, et qui est restée ouverte pendant tout l'été, entre les deux vagues de la pandémie, hein, et qui en a pu donc accueillir physiquement donc, le public. Donc, je pense que ça, c'était une réussite à la fois dans le sens où on était prêt, comme je disais tout à l'heure, on a pu donc avoir cette offre éditorialisée et fort et riche. Cela dit, c'est fait partie parce que cette crise, après, on a eu des différents types de rebondissements et des pics, nous a permis également d'étoffer nos lives avec donc des rendez-vous hebdomadaires, des contenus et des rencontres avec des artistes, des médiateurs, des conférencières en ligne dans un programme de live. Et assez rapidement, à la sortie du premier confinement, on a commencé à proposer des contenus payants en ligne. Nos histoires d'art au Grand Palais, qui sont notre programme de conférences pour l'histoire de l'art, on les a basculés d'abord pour une partie, puis après complètement, aujourd'hui encore, complètement en ligne, mais payant. À cela, on a pu joindre récemment deux visites en ligne des expositions qu'on n'a pas pu ouvrir, Noir et Blanc et Femmes peintres au musée de Luxembourg. C'est des expositions, dans Noir et Blanc, c'est une exposition sur les chefs-d'œuvre de la photographie qui carrément, c'est pas simplement n'est pas pu ouvrir, mais va s'ouvrir, elle s'ouvrira jamais hein, parce qu'on a dû les démonter, mais qu'aujourd'hui, on propose une visite en ligne de cette exposition qu'on l'a numérisée et on les propose en modèle payante, enfin, c'est pas cher, hein. Mais soit pour une visite en autonomie, soit une visite avec conférencier, en couple avec conférencier. Et on voit que, et ça, c'est, je pense que c'est un truc intéressant, que l'engagement des publics est plus fort quand on paye. Donc, tant qu'on a une meilleure reach, qu'on touche beaucoup plus de gens, qu'on a des contenus gratuits, parce que les gens, ils viennent, ils cliquent, ils voient. Mais d'un coup, il part aussi vite derrière. Tant que les gens ont payé, ça devient une destination. Et donc, la visite en ligne payante devient un lieu de destination, pas simplement un lieu de passage, comme on constate sur plein d'autres offres.
Bravo pour vos expositions Pompéi et Noir et Blanc que j'ai vues en ligne, que j'ai beaucoup aimées. On va sortir du contexte du confinement. Est-ce que vous pouvez nous parler du Grand Palais immersif et de l'organisation du numérique chez RMN Grand Palais?
Alors, Grand Palais Immersif, c'est un filiale de la RMN Grand Palais qu'on a lancé fin de l'année dernière, justement, dans le sillage de ce qu'on appelait un Proof of Concept, qui est notre exposition Pompéi, où on explore un nouveau format des expositions, en sens un format, je veux dire, c'est pas. On connaît différents types de formats des contenus, hein, qui ce sont donc des formats linéaires, spatiales, de différentes natures. Il y a film, cinéma, télé, réalité virtuelle, exposition, tout ça, ce sont donc des formats des contenus. C'est une forme qu'on donne à des contenus. Grand Palais Immersif a une vocation de proposer un nouveau format où on propose des expositions à grande dominance numérique, notamment immersives en vidéo mapping, qui proposent un parcours dans une architecture fortement entourée des éléments de multimédia. On propose donc une expérience qui est triple, à la fois une immersion qui suscite des émotions, de la narration qui accompagne et partage de l'information et de l'interaction qui met en place et qui accélère l'engagement du public. Donc, c'est ces trois aspects, l'immersion, la narration et l'interaction, qui s'articulent ensemble, créent ces nouveaux types d'eau. Des formats qu'on l'appelle Grand Palais Immersif.
Ces expositions ont-elles vocation à être exportées?
Ce sont donc des expositions qui ont une vocation d'être présentées au public dans des espaces comme Pompéi et qui devraient pouvoir itinérer et trouver d'autres lieux des expositions pour, oui, pour s'exporter, enfin, pour toucher encore un public plus large.
Quels outils de médiation accompagnent les visiteurs dans vos musées?
On utilise le numérique comme des outils, donc des médiations qui peuvent accompagner la visite. Ces outils-là, comme je disais tout à l'heure, existent, peuvent exister en amont la visite, et donc notamment en ligne, en amont et en aval, et in situ pour accompagner la visite in situ. Donc là-dessus, il y a toute une palette très large. Et d'ailleurs, on a pu le présenter il y a 2, 3 ans. On a proposé un événement qui s'appelait Art Connexion au Grand Palais, qui a proposé à avoir une bonne douzaine des outils, des médiations et des présentations numériques, je dirais, aux frontières, enfin, au point de l'innovation. Donc, à la fois, donc, des bornes interactif qui permet d'explorer des objets en 3D, des installations interactives à grande échelle, de la réalité augmentée qui permettent avec l'usage des téléphones portables des visiteurs d'avoir des contenus supplémentaires qui n'existent pas physiquement mais qui pourraient être présente numériquement, des casques de réalité virtuelle, voilà, et toute une palette des outils de médiation qui accompagnent la visite.
On parle de séduire une audience plus jeune. Vous nous parlez des outils d'aide à la visite et de médiation. Est-ce que le jeu vidéo est le futur de la pédagogie muséale?
Alors, est-ce que c'est le futur? Je ne pourrais pas dire, mais c'est un des futurs sûrement. L'activité de jouer a un fort élément d'engagement et d'appréhension. Ça veut dire qu'on joue, à la fois on est très engagé et on apprend plus. Ou mieux. Ayant dit ça, il est je dirais, normal qu'on voulait et qu'on voudrait explorer par la pratique des jeux ces différents aspects. Et d'ailleurs, on l'a fait à plusieurs reprises, à la fois donc de jeux qu'on a proposés en ligne, type casual gaming, pour aller sur la Lune, pour notre exposition Lune il y a 2 ans, ou bien des propositions qu'on fait aujourd'hui à la fois en ligne et in situ, des types d'escape game par rapport au monument du Grand Palais et de son environnement. Donc, on a déjà fait et on fait encore ce type de propositions, des fantasmes, et il nous paraît clair que le jeu est un vecteur très important.
Quelle est la place des réseaux sociaux dans votre dispositif digital?
Alors, les réseaux sociaux sont devenus des canaux de diffusion et des interactions à part entière, donc depuis leur existence. C'est ce qu'on constate, c'est la rapidité de l'accélération de ce type de canaux et des typologies des usages. C'est pour cela, de choses qui étaient peut-être au début, parfois expérimentaux ou je dirais un peu en marge, deviennent ou devenus centraux parce que, autant qu'une institution culturelle qui vit dans son temps, dans la société, la place des réseaux sociaux dans la société est très importante. Et donc, nous, en tant qu'établissement culturel qui a l'ambition et l'objectif de rester pertinent dans son temps, on a l'obligation de faire usage de cette typologie des canaux et des interactions. Donc, on a une stratégie très claire d'être présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, chaque réseau, avec la typologie des contenus et la typologie des interactions qui lui sont propres, d'une part, et d'autre part, d'être en mesure de suivre les évolutions, parfois assez rapides, de ce type, et de proposer, d'expérimenter, de proposer des contenus. Je vous donne un exemple. Je ne me rappelle plus les années parce que choses parfois passent justement très vite, mais on était les premières à proposer un Facebook Live sur Facebook pour notre exposition Picasso et les maîtres, parce qu'à l'époque, on a fait cette exposition, Facebook nous a contactés, nous a dit, là, on veut lancer ça, est-ce que vous avez une idée? On dit, bah, bien sûr, on a une idée, on va faire une visite de l'expo Picasso Mania avec la petite fille de Pablo Picasso. Et donc, on était les premières à faire ça. Donc, en première, ça a fait bien évidemment des millions de vues, hein, parce que ça n'existait pas. Je pense que c'était en 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus, mais c'était dans ces zones-là. Et puis maintenant, c'est complètement banalisé. Hein. Enfin, tout le monde le fait tout le temps. Donc, je pense que ça, c'est un truc voilà, qu'à un moment donné, on a testé et qui est aujourd'hui devenu, comme je disais tout à l'heure qu'on a parlé des confinements, aujourd'hui, on a une programmation en Facebook Live parce que ça fait partie aujourd'hui des outils qu'on utilise. Un autre exemple, c'est l'usage des photos des œuvres. En 2013, 2014, on a fait un expo excellent sur l'art cinétique qui s'appelait Dynamo. Et donc, on l'a dit, Dynamo, art cinétique, les regards des visiteurs font partie de l'œuvre. Donc, on a voulu, à l'époque, l'engager en les demandant de prendre des photos. Et au-delà de demander de prendre des photos, de les poster dans une application et on l'a montré ces photos prises par le public à la sortie de l'exposition. Donc, ça a créé en soi une mur d'images qui était une œuvre en soi, mais où le public a trouvé ses propres vues des œuvres. Quelques mois plus tard, on l'a dit, ça a marché hyper bien et ça a un vrai sens hein, où le public peut partager ces images, pas simplement sur les réseaux avec ses amis, mais aussi dans l'espace même de l'exposition. Et donc, on a installé des écrans permanents qui, d'ailleurs, ne sont pas liés à une application dédiée, mais directement à Twitter, à Instagram. Et on les montre, les hashtags de l'exposition en temps réel sur les lieux d'exposition. Je donne cet exemple parce que c'est encore une fois, ça montre à la fois l'évolution très rapide et la manière qui est devenue complètement, je dirais aujourd'hui, presque banale, d'aller à une exposition, de prendre des photos et de les partager sur les réseaux sociaux. Et ça va jusqu'à, je dirais qu'on vient, c'est les choses avancent, et donc pas plus tard qu'il y a quelques mois, TikTok ont lancé leur axe spécifique pour l'art et la culture. On était partenaire pour pouvoir proposer des contenus dédiés, et donc du coup, dans le format spécifique de cette réseau, et ça a eu son propre succès.
Quel est le rôle d'Instagram dans votre stratégie?
Instagram fait partie de notre stratégie. Je ne dirais pas que c'est au cœur. Il est vraiment... Instagram, c'est un canal de diffusion et des créations, d'ailleurs, des contenus très riches. D'ailleurs, qu'on l'utilise de manière aussi multiple, comme d'ailleurs cette plateforme qui a beaucoup évolué elle-même. En effet, ça a commencé qu'on partage des images. Et du coup, nous, on facilite et on valorise ce partage d'images, par exemple, en les publiant sur place, sur des écrans. Mais aussi, c'est un réseau qui, aujourd'hui, donne lieu à des créations artistiques. Et par exemple, pour notre exposition Noir et Blanc, on a créé avec une artiste de réalité augmentée, Agnès Jonvial, des masques dédiés en réalité augmentée pour cette exposition. Par ailleurs, on a eu une autre action, faire la curation de certains chefs-d'œuvre de la sculpture en réalité augmentée pour la partie Spark d'Instagram qui propose aux utilisateurs de représenter chez eux les Moïse de Michel-Ange, entre autres, de jouer avec, de l'explorer, d'avoir des contenus dédiés et derrière d'interagir avec. Et donc ça, c'est vraiment des contenus et des fonctionnalités qui, à la fois, on accompagne, mais aussi on sollicite. C'est ce type d'action, eh bien, au-delà du fait que nous, on crée des contenus, donc des formats qui sont les formats dédiés de la plateforme, qui sont donc des stories, des IGTV, etc.
D'accord, très bien. D'ailleurs, j'ai testé la mise en place de sculptures chez moi. C'est assez sympa, assez interactif, donc bravo pour ça. D'ailleurs, au début du confinement, je suis tombée sur vos IGTV parlant de Toulouse-Lautrec. J'ai adoré, bravo encore. Et je voulais savoir si vous alliez faire d'autres publications dans ce format-là.
Tout à fait. Ça, c'est vraiment un format qui est conçu pour ce type de canaux qui explore ces formats nous proposent de faire avec une tonalité et éditorialisation qui est propre. À l'occurrence, bonjour, je m'appelle Henri, c'était dans ce sens-là. Et on va continuer à créer des contenus qui sont dédiés. Après, vous savez, chaque fois qu'on crée des contenus, on pense à la fois à qui on voudrait s'adresser, sous quel type de plateforme, avec quels moyens, à la fois quels moyens d'expression, mais aussi quels moyens budgétaires on pourrait y mettre. Et là, ça rentre dans une logique globale des créations, en effet, contenu des propositions au public.
Quand on parle Instagram, on pense souvent aussi influenceurs. Comment travaillez-vous avec des influenceurs?
Écoutez, on travaille avec des influenceurs depuis, je dirais, enfin, influenceurs aussi, c'est un phénomène récent. Il existait toujours des personnes relais, des ambassadeurs, de personnes qui ont fait ce qu'on appelle des relations publiques, de ce qu'on fait, même avant Instagram et avant YouTube. Nous, on est assez tôt, enfin, je dirais, il y a pas mal d'années, on a commencé à travailler avec des YouTubers d'abord. On a produit donc des séries dédiées avec différents types donc de YouTubeurs qui viennent des horizons et ayant des sensibilités différentes. Et ce qui nous a vraiment guidés, c'est les contenus. C'est quel type de contenu, des nouveaux contenus peut-on produire, peut-on éditer, éditorialiser pour parler de manière pertinente à différents types de publics sur ces canaux-là, à l'occurrence YouTube, mais aussi maintenant sur des canaux comme Instagram où on voit l'importance de ce type de relais. Et donc, on travaille avec des influenceurs de différentes manières. Une startup qui travaille avec des lieux photogéniques dans lesquels des publics, des influenceurs, sont invités de prendre des photos et de créer des contenus. Il y a quelques mois, on a ouvert de manière spéciale la nef du Grand Palais à Spotter et ses utilisateurs pour qu'ils puissent s'exprimer et découvrir ces lieux.
Super. On va parler du Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars. Pouvez-vous nous parler du dispositif qui va accompagner cette révolution? Parce que effectivement, le Grand Palais va être fermé pendant quelques temps. Comment allez-vous le faire vivre en attendant sa réouverture?
Alors, le Grand Palais est fermé aujourd'hui, donc depuis le 12 mars, aux travaux qui vont durer jusqu'à les Jeux Olympiques. Et entre-temps, la RMN Grand Palais se déploie sur d'autres sites avec ces actions, notamment au Champ de Mars, avec la construction des grands palais éphémères, qui est une énorme construction qui va accueillir les grandes manifestations culturelles et autres, hein, comme la nef du Grand Palais. Et en parallèle, on va continuer à produire des expositions et de les proposer ailleurs, ce qu'on appelle hors le mur. Par exemple, l'exposition Napoléon qui devrait s'ouvrir bientôt, dès que les conditions le permettent, à la Villette, est une coproduction de l'ARMN Grand Palais.
Pouvez-vous nous parler du Palais Augmenté?
Palais Augmenté, donc une coproduction avec Fisheye, dans laquelle on va exposer en réalité augmentée toute une nouvelle génération des artistes qui créent pour ce nouveau format.
Je voulais savoir ce qui vous avait donné envie de travailler dans l'art et dans la culture.
Écoutez, ça remonte à un moment. Depuis toujours, j'étais attiré par la culture en sens large et des différents domaines dans la culture. Et je faisais des études, notamment de littérature, de philosophie et de cinéma. Et du coup, c'est un moment donné où il fallait choisir, se trouver des travails, entre guillemets. C'était pour moi pas un choix de logique, un choix de cœur. De travailler dans ces domaines, je me suis trouvé dans ça. Après, je n'ai pas eu en sens... Si la question de dire est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu une sorte de révélation, je suis réveillé, j'étais touché par... Non, c'est vraiment été, un parcours, un cheminement, un envie, une manière de poursuivre sa vie, ses envies, ses passions, et de trouver dans ces domaines. Je n'ai pas eu, pour aussi s'il faut répondre, je n'ai pas eu une sorte de plan de carrière, et peut-être aussi qui est de dire que je me posais à l'époque, ce n'est pas si loin que ça, mais par exemple, il n'y avait pas des programme encore très construit en termes donc des études pour... D'ailleurs, je ne l'ai pas cherché si ça existait à l'époque. En tout cas, ce n'est pas existé pour le numérique, ça c'est sûr, parce que je faisais mes études dans les années, même au fin des années 90, début des années 2000, ce n'était pas encore très structuré.
Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui veut travailler dans l'art et le numérique aujourd'hui?
C'est une question très large et vaste parce que aujourd'hui, les numériques occupent l'ensemble de l'étendue des activités. Donc, peut-être à un moment donné, c'était une champ qui était plus spécifique ou spécial, mais aujourd'hui, dans tous les domaines de l'activité, notamment celle de la culture, le numérique occupe une place importante. Que ce soit dans la création, que ce soit dans la médiation, que ce soit dans la communication, mais que ce soit aussi dans l'administration. Donc, je ne prendrai pas cet axe-là comme un axe distinguant. Je pense que ceux qui vont travailler dans la culture, il faudra vraiment, je dirais, comme toujours, avoir cette envie-là et utiliser peut-être le numérique comme d'enrichir son arc des compétences et des sensibilités. Mais le numérique, comme on le dit, il est partout.
Merci beaucoup, Roy.
Merci beaucoup.
Voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté. Vous trouverez toutes les notes de l'émission sur le site numar.fr. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux, et plus particulièrement sur LinkedIn et Instagram. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous avez aimé et que vous souhaitez nous aider, nous serions très contents que vous nous laissiez une note et un commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Cela nous permettra d'avoir plus de visibilité. Merci encore et à très bientôt pour un prochain épisode.